Quand elle s'endort enfin, il n'y a plus de panier trop lourd, d'eau froide, de carrelage sans fin. Que des voix qui chantent pour elle. Une félicité lumineuse. Elle n'a jamais ressenti ça.
J'ai enfin osé mettre le disque dans le phono-valise. Et elles sont toutes revenues, massées autour de moi. Comité bienveillant. Elles me caressent les épaules, touchent mes cheveux, soufflent dans mon cou. Les voix sont revenues. Je les reconnais. Chacune d'entre elles me parle, rien qu'à moi. Je sens mon corps s'animer. Le sang circule. La lumière envahit ma cellule et mon cœur. Il bondit avec force comme s'il battait à nouveau normalement. C'est incroyablement bon. J'ai peine à y croire. Je pourrais remercier, mais je préfère ignorer qui.
Son corps est fatigué, mais son cerveau tout excité. Il résonne de trompettes, accompagné d'un orchestre de cordes, lui-même soutenu par de nombreuses percussions. L'ensemble est enlevé, joyeux. Une symphonie inespérée est en train de renaître. Il retrouve les sensations perdues, mais elles lui paraissent plus fortes, plus colorées qu'avant. Le travail à prévoir s'annonce colossal. Cela ne l'inquiète pas, au contraire. Il sent grandir en lui un appétit tout neuf. Il rêve. Elle deviendra ses mains. Il fera d'elle son élève, sa secrétaire. À cet instant, il a remisé toute idée de mort. C'était une grossière erreur. Cette jeune femme peut le rendre immortel. Ce sera long, mais elle possède, sans le savoir, et c'est bien ça le plus beau, la sensibilité et la force. Elle a suffisamment souffert pour surmonter toutes les difficultés qui ne manqueront pas d'apparaître. Il a confiance en elle. Sa seule inquiétude, c'est la réaction de sa femme. Une alerte retentit dans son esprit. L'odeur de tabac qui flotte autour de lui et qu'il trouve si agréable, si rassurante, toute leur après-midi se ranime à travers elle, cette seule odeur risque de tout compromettre. Il faudrait jeter les mégots. Un soupir de rancœur lui échappe. C'est hors de portée pour l'infirme qu'il est. Il se reprend aussitôt. C'est fini tout ça, ce misérabilisme. Il doit se montrer à la hauteur, il est capable d'agir. Aérer, il peut toujours aérer. Aller ouvrir la fenêtre, puis se recoucher. Cela ne lui prendra que quelques minutes, inutile de sonner, de réveiller la petite. Elle a besoin de repos, ses journées seront assez remplies avec ce qu'il lui prépare. Il se hisse sur son lit dans l'obscurité de la pièce. Les lieux, il les connaît par cœur. Toutes ces années à aller de la table au lit, du lit au fauteuil, il pourrait le faire les yeux fermés. De sa pince, il repousse la couverture. Le fauteuil doit être tout à côté, stationné devant le chevet. Il tâte l'air sans rien trouver. Il se concentre pour essayer de se souvenir où est-il resté ce satané fauteuil. Blaise se penche davantage. Son moignon brasse l'air à la recherche de l'accoudoir, de la roue. Il effleure quelque chose. Il est bien là, à peine trop loin. Blaise souffle, il va y arriver. Prenant appui sur le chevet, il se penche pour tenter d'accrocher le bras du siège. Il y est presque. Tout son corps se tend. Son visage se crispe sous l'effort. Il a mal dans les épaules. Il approche dangereusement du point de bascule, mais il se dit que s'il tombe en avant, le fauteuil le retiendra et qu'il pourra enfin le rapprocher. Il donne une légère impulsion et tout se précipite, trop vite pour qu'il puisse faire marche arrière, bloquer le mouvement. Dans sa chute, il entraîne avec lui le chevet. Son corps culbute dans un fracas énorme de meubles renversés et de verres brisés. Sa pince heurte violemment le siège dont le frein n'est pas serré. Il roule un peu plus loin, définitivement hors de portée. Blaise